Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad de...
Chers auditrices et auditeurs de la web Radio Rage, voix de jeunes, Azouf Lewen, sbah el khair alikoum, bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro de l'émission Café des Libertés, nous allons aborder un sujet très sensible et d'actualité nationale, voire internationale, qui est la migration. Ce phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années et qui a touché tous les pays, soit ceux d'origine et soit ceux de destination. Donc pour aborder cette question cruciale, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de la web radio du Rage Voix de Jeunes deux activistes membres du collectif SAA, donc un collectif qui est actif en France, plus exactement à Bayonne, si je ne me trompe pas.
Au Pays Basque.
Voilà, donc la frontière franco-espagnole. Donc nous invités, il s'agit donc de Madame Marie Cosnet. Désolé, donc bonjour Marie.
Bonjour, salam.
Et, salam, voilà, donc et Vincent Audin. Bonjour.
Enchanté.
Merci d'avoir accepté l'invitation de la web radio Rage Voix de Jeunes et bienvenue en Algérie.
Merci.
Voilà, sans trop tarder, on passe directement à notre émission, à notre café débat. Donc, est-ce que c'est votre premier séjour en Algérie?
Ah oui, pour moi c'est mon premier séjour en Algérie. C'est pas mon premier contact avec l'Algérie, mais mon premier séjour en Algérie.
Et Vincent?
Même chose, première fois.
Et donc, tant que c'est votre premier séjour en Algérie, comment vous trouvez l'Algérie, globalement?
Moi, je suis ravie. Tant sur la question des relations avec les gens et au quotidien, et justement l'hospitalité dont nous sommes bénéficiaires, m'enchante, me ravit.
Oui, également pour moi, je suis ravi et on n'a que des très belles surprises tous les jours et un très bel accueil.
Mais pour l'instant, vous avez visité que Alger pour l'instant.
Oui, on n'a pas bougé d'Alger.
Et dans ce cas, je vous conseille de revenir une autre fois pour découvrir d'autres régions. Je suis sûr et certain que vous allez admirer.
Ça se fera.
Voilà, on dit Inch'Allah. Donc, vous m'avez dit que vous faites partie d'un collectif qui accueille et accompagne les migrants subsahariens.
C'est ça?
Oui, c'est un collectif qu'on a créé il y a à peu près un an et demi, qu'on a appelé le collectif Sahara. Du nom d'un jeune Guinéen qu'on a croisé par chez nous, voilà, et qui est remonté depuis la Guinée-Conakry, par ensuite l'Algérie,
après l'Espagne,
le Maroc, l'Espagne, voilà. Donc c'est un collectif qu'on a été motivé par, c'était au moment des élections présidentielles, non seulement au départ parce que on voyait des jeunes sur les routes. Et on a eu envie de faire quelque chose. Enfin, on ne pouvait pas rester. On savait bien que ce qu'on faisait, c'était pas grand-chose. Et on a tâtonné, mais malgré tout, on ne voulait pas rester sans rien faire. Donc, on a donné des coups de main, se loger pour aider à reconnaître la minorité, la reconnaissance de minorité. Voilà. Mais aussi, il y avait un autre objectif au départ. C'était, comme c'était au moment des élections présidentielles, et qu'il y avait évidemment la possibilité que le Front National
fasse un bon score.
Fasse un bon score, voilà. Et donc nous, on savait que la peur de l'étranger tombe vite si on a une relation avec les personnes. Et donc on savait très bien que par l'accueil,
on faisait du bien à tout le monde, à ceux qu'on accueillait et à ceux qui accueillaient.
Et donc d'avoir chez soi même une journée ou d'échanger un repas avec quelqu'un, il est impossible d'en avoir peur après. Voilà.
Il y avait aussi le fait que quand on a créé ce collectif, on anticipait le fait que la route par la Libye, la route des exils par la Libye serait une route un peu moins empruntée, elle l'est quand même, hélas, et bien sûr, mais que la route par l'Algérie serait, en tout cas par les subsahariens, par l'Afrique de l'Ouest, davantage empruntée. Donc on prévoyait il y a un an et demi, presque deux ans, que, ce qui est le cas aujourd'hui en effet, cette route soit largement empruntée par les subsahariens. Et ça, c'était, on se disait, il faut se préparer à ça. Et si on est prêt déjà à héberger chez nous, chez les uns, chez les autres, on sera d'autant plus prêt dans deux ans, dans un an et demi, enfin quand il faudra, hein, parce qu'on ne peut pas prévoir exactement, on sera prêt à une solidarité de masse en fait.
Mais comment justement peut-on décriver ces routes de passage migratoire, notamment c'est-à-dire ce passage entre l'Espagne et la France? Comment peut-on décriver ce chemin et ces routes migratoires?
Donc en fait, si les routes se ferment, au départ on avait la route par la Libye et Lesbos qui, par les accords européens faits avec la Turquie, ce sont des routes qui ont été moins empruntées. Je ne dis pas du tout qu'elles ne le sont pas, elles le sont d'ailleurs par des Algériens, c'est une autre histoire. Ouais. Mais c'est une route qui a été moins empruntée. La route par la Libye, on sait bien que la dureté, la violence faite en Libye... aux femmes, mais pas seulement aux femmes, aux hommes aussi. Et c'est une route qui est moins empruntée aussi, d'autant plus que les sauvetages en mer là-bas sont bloqués pour les raisons qu'on sait, les bateaux qui sont empêchés de naviguer, à qui on enlève le pavillon. Et donc, reste la route par l'Algérie et Ceuta, en tout cas Tanger, enfin il y a tout un tas de possibilités de prendre des bateaux. Donc c'était assez, on pouvait assez anticiper ça. Et donc les gens arrivent dans le sud de l'Espagne, remontent donc, vers le nord de l'Espagne, Bilbao, Irún, et là attendent de passer en France. Donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quelques mois, ils pouvaient passer, on va pas dire facilement parce que c'est pas vrai, on franchit aucune frontière, même de l'espace Schengen, facilement. Quand même, rappeler qu'on parle de frontières de l'espace Schengen, donc en principe de pas de frontières.
Pas de frontières.
Mais pour les gens qui sont hors espace Schengen, ça reste des frontières. Et tout ça est allé très vite parce qu'il y a, je sais pas, je pense que c'est 2002, quelque chose comme ça, des accords entre la France et l'Espagne qui prévoient que on peut renvoyer, même lorsqu'on est à je ne sais plus combien de kilomètres d'un côté de la frontière, on peut renvoyer de l'autre côté de la frontière des gens qui l'ont franchi. Aujourd'hui, cette zone le long de laquelle on peut renvoyer ne cesse de s'agrandir. En tout cas, elle est variable. Cette zone-là, donc par exemple, on peut renvoyer quelqu'un, même s'il est arrivé jusqu'à Bordeaux. Il y a quand même des règles, mais enfin, ces règles sont tout le temps en train de glisser, de changer. Donc, ce passage de frontière, il n'est pas seulement le passage d'un pont entre Irún et Hendaye, il est aussi bien au-delà. Alors, côté espagnol, ça ne pose pas tellement de problèmes, puisque côté espagnol, les policiers ne disent rien. Lorsqu'ils voient passer un subsaharien, il s'en va. Donc, ils n'ont pas... Du côté français, les policiers français... C'est là que ça commence. Alors, jusqu'à présent, les policiers français se contentaient, entre guillemets, hein, et en grande majorité, parce que ce n'est pas toujours le cas, de renvoyer informellement et illégalement les jeunes de l'autre côté du pont. Ce qu'on appelle du refoulement illégal, puisqu'ils ne le faisaient pas dans les règles. Aujourd'hui, ils risquent d'être, hélas, et on ne l'espère pas, mais ils risquent d'être un petit peu plus organisés.
Donc, une fois arrivé du côté français, donc vous, en tant que collectif, vous hébergez Zibzarins, est-ce que vous assurez l'accès aux soins et à l'éducation des enfants des Zibzarins?
Alors, ça c'est une grosse question. Qui commence?
Oui, enfin, déjà, je voudrais dire que pour l'hébergement, c'est pas nous
de tout seul, non.
Nous, de tout seul, qui hébergeons, c'est un collectif, un réseau de personnes. Voilà.
Et puis dire aussi, peut-être, Vincent, que notre collectif, qu'on a appelé ça, donc d'un nom, du prénom d'un jeune Guinéen qu'on a rencontré, a été accompagné de tout un tas de petits
justement,
collectifs.
Justement, j'ai une question par rapport à la société civile, c'est-à-dire à l'adhésion de la société civile par rapport à son collectif. Donc, on va revenir
sur ça. D'accord, on y reviendra. Très bien. Vas-y alors, sur l'hébergement.
Voilà. Sur l'hébergement, donc, comment ça se passe?
Oui, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté d'assurer, c'est-à-dire l'accès aux soins si. Pour les enfants surtout et l'éducation.
Si, pour le soin, c'est compliqué. Enfin, je pense que tu vas.
Ouais. Hein. Alors sur le pour le soin, il y a plusieurs choses. Lorsque il y a des lois qu'on tente de faire respecter, ouais. Même si quelquefois il serait plus facile d'avoir de passer par les médecins qui sont solidaires, parce qu'on a tout un tas de médecins solidaires ou d'infirmiers, d'infirmières qui sont prêts à donner des soins spontanés, en fait, c'est-à-dire hors cadre, c'est-à-dire gratuits. Par exemple, les plus grands besoins qu'on a eus, c'est les dentistes, c'est les dents, parce que les gamins qui sont sur les routes depuis 3 ans, etc., ils ont mal aux dents, et on a eu besoin de demander à des dentistes d'intervenir hors cadre, complètement hors cadre, c'est-à-dire de manière gratuite d'une part, et puis normalement un dentiste ne peut pas intervenir chirurgicalement sur un enfant si cet enfant n'a pas de responsable légal qui le couvre. Ça, c'est une sorte de responsabilité en fait civile, et ça on l'a pas, on peut pas l'avoir, et donc on a tout un tas de médecins qui vont faire des actes médicaux hors cadre légal même. Donc ça, c'est super. Mais
c'est très engagé de l'enfant aussi.
C'est vraiment important. Mais nous, on pensait aussi, enfin nous, pas nous deux, hein, encore une fois, le collectif pensait aussi que c'était très bien, certes, en urgence, mais que c'était encore mieux de faire respecter la loi. Parce que la loi, si on la respecte, d'ailleurs c'est la même chose en Algérie, l'accès aux soins est de droit.
Garanti. Il garantit.
Alors évidemment, on a du mal à la faire respecter, comme ici je crois, et comme dans plein d'autres pays, mais l'idée c'est de tenter de la faire respecter. Notamment les hôpitaux ont la passe, c'est-à-dire une permanence d'accueil pour les étrangers, de telle heure à telle heure, voilà. Et en principe, ils doivent faire face à leur... à leur éthique, à leur déontologie, à leur obligation, et recevoir les étrangers qu'on leur présente sans aucune discrimination. Et donc on y va, on le fait, on les accompagne. Quelquefois ça se passe bien, quelquefois non, parce que...
Oui, on peut imaginer.
Voilà.
Et qu'en est-il de l'éducation pour ces enfants ?
Pour l'éducation, de la même manière, il y a deux biais. Il y a le biais de l'éducation privée catholique. Alors, l'éducation privée catholique, les collèges et les lycées privés ils sont sous contrat avec l'État. Ça veut dire qu'ils ont un contrat avec l'État, mais ils sont responsables de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils inscrivent qui ils veulent inscrire. Ils n'ont pas obligation d'en référer au rectorat. Le rectorat qui est l'administration qui s'occupe des lycées et des collèges. Donc, avec eux, eh bien, on a été très très bien accueillis, à part un exemple, un contre-exemple, dans tout le Pays Basque et les Landes, qui est le département d'à côté, on n'a pas eu un refus dans l'éducation privée catholique. Ils disent même que c'est leur mission d'accueillir, peu importe que les personnes qu'ils accueillent soient musulmans ou catholiques, ça ne pose aucun problème pour eux, vraiment. On a de très très beaux exemples et de très belles anecdotes à ce propos. C'est l'accueil avant tout. Une directrice d'école dans un collège qui accepte de prendre un enfant qui n'a même pas d'assurance, parce que normalement, quand même, s'il fait du sport, il risque de se blesser ou il risque de blesser quelqu'un, et il n'a pas cette assurance parce qu'il n'a pas de responsable légal, c'est toujours la même histoire. Et elle dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le risque ou on ne prend pas le risque ? Après tout. Des risques dans ma vie, j'en prends bien d'autres. Voilà. Et le gamin, il est scolarisé. Et alors, et notre grande réjouissance aussi, c'est que même dans l'éducation publique, où c'est plus compliqué, parce que là, évidemment, c'est l'inspection. Là, c'est tout hiérarchisé. Enfin, vous voyez bien, l'inspection d'académie, par-dessus le rectorat, par-dessus le ministère de l'Éducation nationale. Et là, les inspecteurs d'académie, c'est des gens qui ont des contraintes, qui ont des consignes, et qui ont reçu comme consigne, très largement, de ne pas scolariser les jeunes de plus de 16 ans. Avant 16 ans, ils sont obligés. Après 16 ans, ils ne sont plus obligés de les scolariser. Or, les jeunes subsahariens que nous, on rencontre, ils ont forcément 16 ans. Ouais. 15, 16 ans. À 15 ans, on n'a pas de soucis. Mais à 16 ans, on commence à avoir des soucis. Et donc, ça a été très compliqué de les scolariser. Et ça, en tout cas, dans notre région, c'est une bataille qu'on est en train de gagner. Qu'on a gagné, je crois. Parce que là, cette année, tout le monde a été scolarisé.
Ah, très bien. Donc, aimeriez-vous ajouter quelque chose par rapport à ces deux points, Vincent ?
Par rapport à la scolarité, non, je ne vois pas précisément. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est parler de Un autre succès, ça a été aussi je pense à Barry, par exemple, qui dans, au sein d'un village, lui, il est boulanger, donc
c'est un tout jeune Guinéen de 22 ans, jeune.
Et donc, du coup, il a fait le pain pour le village.
Un village qui avait perdu son boulanger.
Ouais. Donc, c'était un bel échange.
Très bien. Aussi, j'imagine, pour ce grand travail, donc c'est un énorme chantier quand même. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls qui activent dans ce collectif. Parlez-nous un peu de l'implication des associations de la région dans ce travail de solidarité et surtout d'accompagnement des subsahariens.
Ouais. Il y a plusieurs associations, plusieurs collectifs, même si elles n'ont pas... Elles ne se sont pas formées en association, mais donc il y avait l'association Etorkinekin qui est sur Bayonne. Et puis
Etorkinekin, c'est un mot basque qui veut dire avec ceux au pluriel qui arrivent.
D'accord. Voilà. Okay.
C'est un mot. Et en réalité, au moment même où nous on crée ce collectif, au même moment, dans chacun presque des villages autour, se crée un collectif d'accueil. Parce que le même constat est fait partout et il faut qu'on soit organisé. Et Etorkinekin, le collectif Saha, les collectifs ou les associations plus légitimes comme la CIMAD par exemple, ou la Ligue des droits de l'homme, qui sont là depuis longtemps et qui aident à tout ce qui est permanence juridique et aide juridique, avec qui on travaille aussi en très bons termes. Voilà. Et après, ce que tu disais, ce que tu évoquais avec le cas du jeune Guinéen boulanger, qui s'est sans demande d'asile et pour l'instant sans régularisation, mais c'est ça qu'il faudra gagner maintenant, installé dans un village, je crois que l'école, le soin, comme tu le disais, la réussite par le travail, même si c'est un travail informel, on va dire, mais qui fait manger, symboliquement, c'est pas rien, tout un village. C'est du lien social, en fait. C'est que on vit ensemble. C'est-à-dire, c'est bien sûr que les gens sont en attente d'un statut, en attente d'une régularisation, mais c'est pas l'attente qui est première. C'est le fait qu'on vit ensemble.
Exactement.
On n'est pas dans l'attente. En attendant, on vit. Voilà.
Ouais. Donc réellement, c'est-à-dire ce problème de régularisation n'a pas posé de problème ou bien n'a pas été comme obstacle pour qu'il y ait cet esprit de vivre ensemble
Exactement.
En paix et en tolérance.
Ça le pourrait à tout moment. Exactement. Parce qu'il y a toujours ça qui plane en fait. Mais bon...
Et qu'en est-il aussi, j'imagine, aussi à la réaction de la société. Donc, qu'en est-il de la société de la région basque et des citoyens donc, par rapport à son collectif, par rapport à ce flux migratoire à qui il assiste au quotidien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de campagne de racisme, de stigmatisation envers ces migrants subsahariens ou même ces citoyens s'impliquent davantage. C'est bien de donner, c'est-à-dire, ce point de vue de citoyen par rapport à cette question.
Dans notre région, donc dans la région du Pays Basque Nord, donc la région du Pays Basque français, où on habite, on ne constate pas de racisme important. Et il y a du racisme, évidemment, mais qui n'est pas organisé. Comme on peut le retour dans d'autres régions en France, en fait, où il y a des identitaires qui s'organisent et qui luttent, qui veulent empêcher les gens de passer entre l'Italie et la France, ou comme on a vu même en Méditerranée, qui veulent empêcher les gens d'arriver, en fait. Donc nous, on constate pas du tout ça.
Donc il y a la société qui s'adhère directement à l'initiative.
Il faut dire sans idéaliser le Pays Basque, quoique on serait tenté, surtout quand on en est loin comme là, mais sans idéaliser évidemment la société basque, c'est quand même une société qui, d'ailleurs je vais raconter une anecdote à ce propos, qui ont une expérience de l'exil, une expérience douloureuse quelquefois de l'exil, parce que il y a plein de... Parce que la société basque, c'est une société où ce sont les aînés qui héritent des maisons ou des fermes, et les cadets doivent partir, ont dû partir. Ils se sont exilés aux États-Unis pendant de longues, longues années. Et donc, partir de son pays, puis il y a eu aussi la guerre d'Espagne, la guerre etc. D'Espagne. Et donc, l'exil, savoir qu'on n'est pas chez soi et qu'on ne pourra pas y retourner ou que si on y retourne, c'est dans très longtemps, c'est quelque chose qui rend très sensible au Pays Basque.
C'est déjà vécu pour...
C'est déjà vécu. Ouais. Et puis, il y a autre chose aussi, je crois, c'est que c'est un pays qui a une tradition d'accueil aussi. Un exemple tout bête, c'est un petit village qui est vraiment à la frontière entre le nord et le sud, entre l'Espagne et la France, qui est Baigorri, qui s'appelle Baigorri. Et en 1993, ce village a reçu les Bosniaques, dont c'était
la guerre
en Bosnie. Et du coup, des Bosniaques ont été reçus dans ce village, mais très nombreux. C'est un village qui, en 2015, faisait 1500 habitants. C'est rien. Ils avaient reçu 200 Bosniaques en 1993. Et en fait, le fait d'avoir accueilli fait que tu vas avoir envie d'accueillir, parce que ça te crée une fierté.
Exactement, ouais.
Et ça crée, il y a une tradition de l'accueil. C'est parce que tu as accueilli que tu accueilles, c'est parce que tu accueilles que tu vas accueillir. Et lorsque, en 2015, la crise, ce qu'on appelle la crise migratoire, qui n'est pas une crise migratoire, qui est une crise de l'accueil, c'est ça, mais ce qu'on appelle la crise migratoire en 2015, le petit village en question, le conseil municipal, gauche-droite, droite-centre plutôt, confondu, et puis à Abertzale, c'est-à-dire les militants basques, ceux qui réclament l'autonomie, ces trois partis-là, qui sont tous au conseil municipal, d'une même voix, il n'y a pas une opposition, dit mais bien sûr qu'il faut accueillir. On est en train de nous parler de gens qui te passent la mer, mais nous on a de la place. On a telle maison, on a un VVF, on a un endroit où qui est pas. On a au moins 50 places. 50 places. Et ils vont accueillir dans ce village 50 Soudanais. Dans un petit village très reculé, de la montagne basque, où les plus anciens en tout cas n'ont jamais vu, ça peut peut-être paraître étrange de dire ça, mais n'ont jamais vu de noir. Et donc, ils vont accueillir 50 Soudanais. 50 Soudanais qui vont être reçus. Je crois qu'aujourd'hui, certains sont restés, d'autres sont partis, parce que pour des questions d'asile qu'ils ont obtenues ou pas, ou de travail ailleurs, etc. Mais ça enrichit tout le monde. Les gens disaient que ça leur avait donné un enthousiasme. Ils utilisaient le mot de ferveur. Une ferveur, c'est presque religieux la ferveur. Enfin, le mot en tout cas qui est utilisé. Il y a eu peut-être 200 personnes qui quotidiennement venaient travailler pour faire à manger ensemble. Bénévolement. Pour faire à manger, pour faire des repas communautaires.
Ah, c'est bien ça.
Ah oui. Et les Soudanais et Érythréens qui étaient accueillis ont voulu rendre aussi l'hospitalité aux gens qui les accueillaient et ont fait des repas. Et il y a eu une journée de fête comme ça des cultures qui est dans tous les souvenirs. Enfin, qu'il y a un truc qui s'est passé qui a été merveilleux.
Et du retour qu'on en a eu, les quelques personnes qui étaient un peu réticentes au départ ont bien vite laissé tomber les réticences.
Oui. Enfin, c'est drôle les réticences.
Ce que je disais au départ, c'est-à-dire au contact. En fait, dans la relation fait que les craintes tombent.
Exactement.
Et les réticences sont très drôles parce qu'il y avait un couple qui vit dans ce petit village, qui venait de la région parisienne et qui était venu vivre ici pour avoir un peu la paix. Et quand ils ont su qu'il y allait avoir 50 Soudanais qui allaient arriver, ils sont allés voir le maire. Et ils ont dit au maire, bon, nous on voudrait créer une association de riverains contre l'arrivée des Soudanais. Ouais. Alors le maire a dit, oui, mais faites, pas de problème. Mais avant ça, venez donner un coup de main. Parce que là, pour l'instant, nous, juste, ils ont froid. Ils sont arrivés et ils ont donné un coup de main. Et ils n'ont plus du tout pensé
après,
à créer leur
exactement,
collectif.
Exactement. Automatiquement, ils vont changer la vie.
Et après, ils ont pensé à ramener encore des sacs avec des vêtements plutôt que de créer.
Donc justement, il y a la question qui se suit. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'implication des autorités locales. Est-ce que, c'est-à-dire, ces autorités locales de votre région facilitent votre travail réellement?
Ouais. Je pense que c'est
essentiel. C'est aussi en période de changement actuellement.
Ouais. C'est essentiel en fait qu'elles puissent le permettre parce que l'exemple qu'on vient de donner, c'est évidemment c'est un conseil municipal qui le décide, mais ce conseil municipal, il en inspire d'autres. Le village d'à côté, il veut faire pareil après.
Tout à fait.
Et les gens se sont organisés dans le village d'à côté pour tous les mercredis à la même heure se réunir pour savoir dans quelles conditions ils pouvaient accueillir, dans quelles bonnes conditions ils pouvaient accueillir qui, comment, quoi, etc. Et puis enfin, tu disais qu'en effet, ça change.
Oui, parce que là, par exemple, sur Bayonne, au moment où nous on est ici, on communique pas mal avec les personnes qui sont là-bas, et le maire de Bayonne, avec les collectifs évidemment locaux, met en place un accueil pour des personnes, parce que en ce moment, donc comme Marie disait, beaucoup de personnes arrivent chaque jour sur Bayonne à ce qui équivaut à la gare routière en fait, place des Basques. Et donc, y a des maraudes tous les soirs, collectifs, des personnes qui venaient, des bénévoles qui venaient pour aider, amener des vêtements chauds, amener amener de quoi manger, de quoi charger les téléphones, enfin bon, tout ce qui pouvait être pour aider les personnes qui arrivaient. Et donc, le maire a décidé de prêter un local, enfin
mettre à la disposition,
pour que les personnes puissent au moins
un très bon local,
à l'abri,
avec
voilà,
wifi,
donc tout ça est en train de oui, avec du wifi pour qu'ils puissent communiquer, voilà, et tout ça est en train de se mettre en place. Donc nous-mêmes on l'a pas vu, on a des retours, on a vu des vidéos, mais on l'a pas vu parce qu'on est ici. Mais
je pense que c'est essentiel en effet que les associations et la société civile, les citoyens comme nous qui agissons, on s'épuise, mais on veut bien s'y épuiser bien sûr, mais soient relayés et soient accompagnés par des municipalités.
Exactement, par les autorités locales.
Ouais, ouais.
Il y a aussi cette charte des maires accueillants. Donc, voilà. Parlez-nous un peu de cette charte. Est-ce que c'est une bonne initiative qui mérite d'être propagée?
Oui, c'est le maire Damien Carême, qui est le maire d'une ville qui s'appelle Grande-Synthe, une ville dans le nord, une ville qui est sur la route des migrations des gens qui vont ou qui allaient ou qui vont encore vers Calais pour aller en Angleterre. Et lui qui s'est vu en 2015 avec des campements, exactement ce qu'on aurait pu avoir nous si le maire n'avait pas réagi à ce point, des campements donc où l'hygiène était un peu déplorable, etc., normal. Et lui, il a décidé, contre l'avis de l'État, de bâtir avec des architectes de l'urgence des bâtiments pour donner un abri et le confort minimum aux personnes qui passaient par là. Et il l'a fait dans une ville où le taux de pauvreté est en dessous du taux de pauvreté en France. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la richesse ou pas d'une ville. Il l'a fait dans une ville où il y a 23, je crois, % de taux de chômage des jeunes. Donc, vraiment une sorte de courage politique qui fait qu'il est réélu quand même depuis 2001, Damien Carême. Ça marche, en fait. De la même manière, non seulement il a cette politique qui est très, très courageuse du point de vue de l'accueil des migrants, il a une politique très courageuse aussi du point de vue de l'alimentation bio dans les cantines, de tout ce qui concerne l'écologie. Parce que c'est des questions qui sont vraiment intimement liées. Il sait très bien, lui comme d'autres, que le réchauffement climatique étant ce qu'il est, les gens vont partir sur les routes encore plus. Donc on ne peut pas séparer les questions comme ça. Et lui, c'est ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'il a réuni autour de lui, alors je ne sais pas où ils en sont, combien de signataires de la charte, mais il y en a pas mal. On en était, quand je suis partie, à une quinzaine. Je crois que c'est aujourd'hui, ils sont à 40 maires ou adjoints de maires, parce que ça dépend aussi des villes et des arrondissements de certaines de villes. Il y a des arrondissements qui vont signer, d'autres non, qui ont signé cette charte.
Voilà. Bah, très bien. Donc,
ouais. Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Il y a notamment ce qu'on appelle le Tribunal des Peuples à Barcelone, où une association, c'est le Gisti, qui s'est organisée pour que soient répertoriés tous les manquements aux conventions internationales que fait l'Union européenne. Ouais. Et ça, un jour, ça sera devant la Commission des droits de l'homme.
Il y a un regard.
C'est un regard, en tout
cas. C'est déjà ça, oui. Voilà, donc, on est arrivé à la fin de cette première partie de l'émission Café des Libertés avec nos deux invités, Marie et Vincent. Donc, chères auditrices et auditeurs, on se retrouve juste après les jingles pour la deuxième partie de l'émission.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Donc, bienvenue à cette deuxième partie avec nos deux invités, Marie et Vincent, toujours. Donc, dans cette première partie, on a parlé, on a abordé la question du collectif. Voilà, donc le travail et les objectifs de ce collectif, les actions qu'ils ont menées au nom du collectif envers les subsahariens et aussi l'implication des municipalités et des autorités locales pour faciliter le travail de ce collectif. Donc, dans cette deuxième partie, j'aimerais bien déjà, par rapport à ce que vous m'avez dit sur ces migrants qui sont de passage, voilà, donc pour atteindre l'Allemagne ou bien d'autres pays du Nord, donc est-ce que cela veut dire que la France, qui était un pays de destination, est devenu un pays de transit?
Moi, je crois que c'est très intéressant de poser la question comme ça et de la reposer sur ce qu'est la circulation et de plus peut-être, enfin de plus, de changer de perspective, de plus penser les choses comme circulation mais comme circularité. Et ça veut dire que là, entre le Maghreb, les pays du Maghreb, alors, l'Algérie, le Maroc surtout, et les pays de l'autre côté de la Méditerranée, on est en même bassin, en fait. On est dans une même, on vit la même histoire par rapport à ces migrations subsahariennes. Et ça, on s'en rend compte pour plein de, avec plein, il y a plein de signes qui nous indiquent ça. Notamment, est-ce qu'on peut parler de transit en Algérie lorsque des gens s'y installent 3 ans, 4 ans, 5 ans? Il y en a plein. Enfin, les gens qu'on rencontre, nous, ici, aujourd'hui, en Algérie, c'est des gens qui sont installés, c'est entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça veut dire, oui, installés? Nous-mêmes, est-ce qu'on est installés? Bon, installés, 3 ans, 4 ans, travail. Des femmes qui travaillent, qui sont coiffeuses, les maçons qui sont venus travailler sur les chantiers, puis qui sont restés. Et des gens qui vont passer chez nous, en Espagne ou en France, pour simplement prendre un train. Donc, comment on définit le transit et la circulation? Ça me semble. Je donne un exemple. On a croisé une toute jeune fille qui a une quinzaine d'années, qui est passée, qui arrive de Guinée, Conakry, et qui est passée par Irun, puis Bayonne, puis elle voulait continuer la route. Elle nous a appelés, elle ne savait pas où elle était. Elle était quelque part en Europe, elle ne savait pas où elle était. C'est en la géolocalisant avec son téléphone portable, comme quoi la fiction et le documentaire sont pas loin, qu'on a su qu'elle était à Bruxelles. Et de Bruxelles, elle ne savait pas où aller. En fait, elle n'avait pas de destination, parce que ces passages-là, ils sont sans destination. Ce qui fait que peut-être que, plus que de crisper les choses en disant tu peux pas, en faisant les politiques d'immigration telles qu'on les connaît, telles que l'Union européenne les pense et aussi telles qu'elles se font ici dans le pays du Maghreb, je parle de l'Algérie et du Maroc, peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose comme une circularité, c'est-à-dire on peut venir et on peut repartir, parce que personne n'a envie, enfin, s'installer quelque part, mais aussi repartir. Et c'est parce qu'on repart qu'on peut revenir, et c'est parce qu'on pourra revenir qu'on repart. Donc, il n'y a pas une... Et pour l'instant, les gens sont bloqués dans la circulation. C'est quand même paradoxal.
Exactement, oui.
C'est quand même le grand paradoxe. Voilà, donc je le dis un peu de manière confuse, parce que c'est pas... Mais essayez d'imaginer cette circularité comme ça, au moins autour du bassin méditerranéen, parce que c'est la même chose qu'on vit. Or, évidemment, on sait bien que ce n'est pas dans ce sens qu'on va, puisque l'Union européenne, sous la pression de l'Espagne, va faire des accords avec le Maroc, accords qui vont se répercuter sur l'Algérie, forcément. Et tout ça ne fait que pousser les frontières un peu plus loin et empêcher les gens de passer, alors qu'il y aurait des choses à penser ensemble. Voilà.
Mais est-ce que cela est dû à la politique migratoire de la France, ou bien que la France n'est pas un pays sûr pour les migrants?
Parce que
ces dernières années, on a assisté justement à partir de 2015, donc les migrants, surtout en particulier les migrants subsahariens, ne cherchent pas à demander l'asile en France ou bien s'installer en France, mais ils cherchent à considérer la France, comme c'est le cas pour l'Algérie et le Maroc, comme un pays de passage, voilà, un pays de transit pour partir plus haut vers le nord.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que donc, les migrants subsahariens sont... L'asile est défini, le droit d'asile est défini par les violences politiques, ethniques et religieuses qu'on est censé pouvoir subir dans son pays. L'asile serait à redéfinir, parce que finalement les violences économiques, ce sont aussi des violences politiques. C'est bien.
Exactement.
Donc, tant que l'asile n'est pas redéfini par l'OFPRA, les migrants subsahariens ont bien vu qu'ils n'avaient que très peu de chances, à moins peut-être certains du Cameroun, bon, il y a quelques. Du Congo, pardon, très peu de chances d'obtenir l'asile. Et en plus, même si ils n'ont pas de chance de l'obtenir, au moins jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, ils pouvaient au moins être protégés pendant un an et demi, c'est-à-dire justement bénéficier de ces relations et de ces liens sociaux dont on parlait. Ce n'est plus le cas, parce que même une famille avec enfants va se retrouver à la rue demandeur d'asile. Et puis il faut rajouter à ça que les lois européennes avec justement les accords Dublin, on avait Dublin 2, maintenant c'est Dublin 3 et Dublin 4 est en train de s'écrire. Donc des accords Dublin, c'est bien voir qu'on ne peut demander l'asile que dans le premier pays où on est arrivé. Le premier pays où on est arrivé, où on nous a pris les empreintes. Et donc comme les pays d'arrivée, à savoir l'Espagne et l'Italie, aujourd'hui, c'est ça. Avant, c'était la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Puis après, ça a été l'Italie. Puis maintenant, ça va devenir l'Espagne. Ces pays sont obligés par l'Union européenne de prendre les empreintes systématiquement aux gens qui arrivent. On les oblige. Alors après, qu'est-ce qu'ils font de cette obligation? Est-ce qu'ils obéissent? Est-ce qu'ils obéissent pas? Qu'est-ce qu'ils reçoivent pour obéir à cette obligation? Tout ça, on laisse ça en suspens. Ce sont des questions. On sait un peu. L'Italie l'a fait. L'Italie a systématiquement pris les empreintes aux gens qui arrivaient. C'est-à-dire que ces gens sont dublinés dans les premiers pays de leur arrivée, et étant dublinés, ils n'ont que la possibilité de demander de l'asile en Italie. S'ils le demandent en France, par exemple, eh ben c'est la croix et la bannière pour sortir de cette première procédure. Mais la croix et la bannière. Alors, tout un tas de juristes, tout un tas d'associations ont travaillé à faire tomber ces choses-là, individuellement, cas par cas, créant des jurisprudences qui, elles-mêmes, pouvaient après être élargies à d'autres cas. Oui. Mais ce que ça a créé en Italie, on le sait, c'est-à-dire un pays qui s'est senti acculé à tort ou à raison, à tort probablement, par des flux migratoires, et qui a voté comme on l'a inspiré, en fait. Voilà, donc un pays qui est devenu fasciste. Qu'on a vu sous nos yeux et qu'on a laissé devenir fasciste sous nos yeux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en Espagne prochainement, puisque c'est maintenant, surtout par l'Espagne, qu'arrivent les gens? Est-ce que l'Espagne prendra les empreintes systématiquement, donc héritant de tous ces gens qui vont demander l'asile? Enfin, tout ça fait que, en effet, plus personne ne veut demander l'asile en France, et que la nouvelle histoire et le nouveau mythe ou le nouvel espoir, qui est peut-être une illusion, c'est de le demander en Allemagne. L'Allemagne qui s'est illustrée quand même par l'accueil pour des raisons. Pour l'instant. Et c'est en train de, et c'est plus le cas, quasi, c'est déjà presque plus le cas, mais en réalité, pour des raisons pragmatiques, de besoin de main-d'œuvre, mais peu importe, après tout. Parce que finalement, les gens qui veulent accueillir, c'est pas les doux rêveurs, sont les pragmatiques, sont les gens réalistes. Et donc l'Allemagne s'est illustrée comme ça. Et donc les gens qu'on voit passer, les Guinéens, les Camerounais, ont cette idée de passer en Allemagne. Et la France n'est en ce moment qu'un pays de passage et de transit. Il faut rajouter à ça peut-être les violences policières, notamment à Calais.
Oui, c'est pour ça que j'ai justement, peut-être par rapport à cette question aussi, parce que lorsqu'un migrant ne peut pas se sentir en sécurité et dans un endroit sûr, soit en France ou soit ailleurs, donc il peut que chercher des issues, voilà, des manières, comment suivre son chemin, voilà, vers d'autres pays, comme le cas de l'Allemagne. Donc je ne sais pas si Vincent peut ajouter quelque chose sur ces deux points, sur cette question.
Par rapport à...
Sur les duvets.
Par rapport justement...
Aux violences.
Oui, oui. Sur tout ça.
Et psychique aussi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que les violences, elles sont parfois physiques, mais j'ai envie de dire qu'elles sont surtout psychiques, oui. C'est-à-dire que, bon, je pense beaucoup aux mineurs, que les départements, parce qu'en fait, c'est les départements, l'État demande aux départements, en fait, de gérer l'accès, enfin, la reconnaissance de minorité. Pour les jeunes qui arrivent et qui demandent à être reconnus mineurs. Et très souvent, tu parlais de croix et de bannière, mais encore une fois, c'est la croix et la bannière pour qu'un jeune qui est mineur, qui a des documents, qu'on demande à ce qui est certifié. Mais c'est très rare que les reconnaissances de minorité se fassent rapidement. C'est très rare qu'elles se fassent même tout simplement. Donc là, la violence, enfin, là, en plus en ce moment, on est en train de... au moment où on parle aussi, on est en contact avec un jeune qui il est en train de devenir fou, en fait. Parce que il est en train de... Oui, enfin, on a très peur pour lui, en fait. Alors qu'il est, il est chez quelqu'un, il est hébergé, il est scolarisé. Tout ce qui il est suivi médicalement pour enfin il a été suivi quand il y a eu besoin, là il en a plus besoin, mais donc tout ça pour dire qu'il est dans un environnement qui pourrait être confortable et malgré tout il reçoit une telle violence administrative
et juridique
et du coup il nous a dit tout à l'heure par message qu'il croit qu'il va devenir fou. Donc la violence, je crois qu'elle est surtout là, en fait. Alors c'est vrai que très souvent on parle de... C'est les images des duvets qui sont arrosés, qui sont mouillés, ou les tentes déchirées, ou je ne sais plus quel autre exemple
qu'il y avait. Systématiquement, les policiers volent les chaussures, voilà.
Les chaussures. Des alors évidemment, c'est très très grave, mais moi j'ai envie de dire que c'est presque pas le plus grave, parce que c'est ce qui est visible, en fait. Mais les violences administratives sont... Et il est beaucoup plus difficile de communiquer sur ces violences-là parce qu'elles
sont perverses, en fait.
Oui, et puis qu'il faut prendre beaucoup de... Enfin, à la télévision, aux informations, on montre ou on explique que des policiers ont déchiré des tentes. En 3 secondes, tout le monde a compris. Alors que pour chaque cas, expliquer en quoi la violence administrative est forte, et il faut expliquer le parcours de la personne, il faut expliquer. Ouais. Donc c'est très long, donc c'est très difficile à comprendre et beaucoup plus long.
Il y a aussi par rapport à la politique de voisinage entre l'Union européenne et la rive sud, comment vous trouvez cette nouvelle politique de migratoire des pays de l'Europe basée essentiellement sur l'approche sécuritaire?
La plus bête du monde, la moins imaginative possible.
Oui, et on sait qu'elle n'a aucun avenir, de toute façon. Ça durera, parce que là, on est parti pour. Mais on sait très bien que ça ne pourra pas durer.
Elle est électoraliste, cette politique. Mais le problème, c'est qu'on... Enfin, même de ce point de vue-là, parce qu'on va se dire que, par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Macron n'a pas envie de voir monter l'extrême droite en Europe. On peut y se dire ça, si on est optimiste et qu'on a envie d'être... Voilà, et pourtant, ce qu'il fait... par exemple, l'Aquarius, le bateau, l'Aquarius va repêcher en mer 50 personnes. 50 personnes, c'est pas non plus 50 personnes. Et ce bateau ne sait pas où aborder. Et on attend un jour, deux jours, trois jours et 4 jours encore qu'Emmanuel Macron réponde que oui, le bateau peut aborder à Marseille, à Sète ou quelque part. Ce qu'il ne répondra pas d'ailleurs. C'est Malte qui répondra avant lui. Mais ce silence... Il est presque plus coupable encore que des mots. Parce que ça veut dire, oui, c'est légitime qu'on puisse poser la question, que la question se pose. On accueille ou on n'accueille pas 50 personnes qui sont en train de se noyer en mer. C'est hallucinant, en fait. On est passé... Donc, même si on peut se dire que quelqu'un comme Emmanuel Macron ne souhaite pas voir monter les extrêmes en Europe, il fait exactement le contraire. Il fait exactement le contraire. Alors, est-ce qu'il imagine qu'en communiquant de cette manière, c'est-à-dire en ne communiquant pas, il répond à, soi-disant, une majorité qui préfère ne pas accueillir qu'accueillir et que donc il soigne son électorat futur et possible? Probablement. Mais il n'a aucune vision politique. Il n'a aucune vision, même pas à long terme, à moyen terme. Il n'a même pas une vision à court terme. Parce qu'à court terme, son histoire, c'est pas possible. C'est la même personne qui va se scandaliser de ce qui se passe en Italie ou en Hongrie. Mmh. Or, avec ce silence coupable, criminel même, qui est de ne pas répondre quand on lui demande si le bateau peut déposer 50 naufragés, on ne parle pas de migrants, de 50 c'est personnes bien, ouais. qui se noient en Méditerranée, il se tait.
Et même chose pour le pavillon, du bateau.
C'est exactement la même chose.
Donc, l'Aquarius, il demandait d'avoir là un pavillon, puisqu'ils avaient perdu le pavillon panaméen, c'est pas ça. Et donc,
Il peut pas, c'est un bateau pirate s'il navigue sans pavillon. Et donc, il demande un pavillon à l'Europe. Et la France, alors l'Europe ne répond pas, et la France non plus. Donc,
le fameux pays des droits de l'homme.
Pays de la déclaration hein, des droits de l'homme.
Réellement, donc, on est loin d'être dans un pays, c'est-à-dire où vraiment les droits humains sont respectés.
Exactement. Les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Tout à l'heure, Vincent parlait des droits des mineurs, du droit de la Convention de l'enfance. Les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Il n'y a plus d'enfants étrangers, en tout cas.
Et en fait, là où nous, on intervient, on essaie d'intervenir, mais c'est des petites touches. C'est avec les différents collectifs, donc la société civile, en fait, c'est justement d'essayer de remettre un petit peu, d'agir pour que remettre un peu de droit et un peu
de bon sens,
dans ce bazar, en fait.
Exactement. Justement, face à ce phénomène mondial, si on peut dire, donc c'est un phénomène mondial, et face à ces politiques anti-migratoires des gouvernements, soit du pays du Nord qui sont considérés comme des pays de destination, ou soit de ceux d'origine, parce que aussi les politiques migratoires de ces pays-là d'origine, donc qui ne répondent pas, c'est-à-dire aux attentes et à ce que les migrants ont besoin. Quel est le rôle justement que peuvent jouer les organisations de la société civile, notamment des deux rives, pour lutter contre ça et pour lutter pour arracher la dignité et redonner la dignité et les droits des migrants à cette population.
Oui. Je pense à quelque chose qui s'est passé en France, qui pourrait se passer partout en Europe, qui pourrait aussi se passer de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Parce que ici aussi, même si c'est moins visible, ça fait qu'une semaine et demie qu'on est là, mais en une semaine et demie, on a vu qu'il y avait plein de solidarité en réalité de la société algérienne avec les migrants subsahariens qui se cachent plus que chez nous, ça c'est vrai, mais qui est active et qui est présente. Il y a une chose qui s'est passée en France qui pourrait être quelque chose qui serait à étendre, qui s'appelle les états généraux des migrations. C'est-à-dire il y a un an, peut-être, à peu près un an, les grosses associations de défense des migrants en France demandent à Emmanuel Macron d'être reçu par lui avant qu'il écrive sa loi asile-immigration, sa Xème loi asile-immigration. Il refuse. Et devant ce refus, les associations ont l'idée, c'est donc à l'initiative du Justi, je crois bien. Les associations ont l'idée.
Une association.
Oui, qui est une association de droit de droit et de soutien des étrangers. Le Justi propose que de ville en ville, de village en village, chaque village en fait réunisse tel jour. Donc c'est formalisé par le jour, par l'heure, etc. Autour d'une table, dans une réunion informelle comme ça, les gens qui veulent accueillir. Et qu'ils fassent remonter tout ça. Donc si on va sur Internet, on trouve États généraux des migrations, EGM, qui fassent remonter toutes les initiatives qui existent, non pas qui devraient exister, mais qui existent réellement,
déjà, ouais.
Afin d'imaginer aussi ce qui pourrait exister de mieux. Et c'est très très intéressant parce qu'on voit que au début c'est pas politique, au début c'est l'accueil spontané, c'est-à-dire l'hospitalité, ce qu'on doit à l'autre. Et puis, c'est cette hospitalité qui devient, parce qu'on prend conscience, politique, qui se politise en fait, et qui peut créer des mouvements plus politiques, de sociaux à politiques. Et ça, les États généraux d'immigration, c'est quelque chose qui a très très bien marché et qui pourrait aussi se faire, alors après avec des droits de réunion peut-être plus compliqués dans d'autres pays que chez nous, mais qui pourrait aussi s'étendre à l'autre rive, comme tu dis, parce que ça serait très bien de mettre tout ça en commun, en fait.
Moi, je pense au fait, c'est le fait, c'est-à-dire de créer des jonctions et des synergies entre ONG et les deux rives, je pense que c'est plus qu'important pour justement lutter contre ça, lutter pour stopper ces politiques anti-migratoires. Donc je pense qu'on est arrivé au terme de cet entretien, mais avant cela, j'aimerais bien terminer sur une bonne note, donc un mot de la fin, un message à transmettre.
Oui. Eh ben, justement, pour moi, le mot de la fin et le message optimiste à transmettre, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire il faut qu'on travaille ensemble.
Ouais.
Il faut qu'on travaille ensemble.
Et Vincent, donc, comme un dernier mot.
Et moi, comme dernier mot, mais je voulais peut-être parler d'une initiative.
Oui, bien sûr.
D'une initiative qui est en train de se mettre en place au Pays Basque Sud, c'est-à-dire la partie Pays Basque espagnole. Et donc il y a un bateau qui est en train de se... qui est sur le point, on l'espère, de partir, comme l'Aquarius. Donc
ah, très bien.
Ça me tient à cœur de parler de parler de
oui,
ça.
Oui, bien sûr.
Et donc c'est le gouvernement basque a donné 400 000 euros pour acheter un chalutier qui était un ancien bateau de pêche en fait, qui a été complètement réaménagé pour pouvoir accueillir des personnes qui sont repêchées en Méditerranée et dans des situations de danger. Et donc ils sont là, ils ont tout aménagé, ils sont sur le point de partir, ils attendent encore un document. Le pavillon, ils ont obtenu le pavillon espagnol, donc ça c'est assez fort je trouve. Et ils attendent, ils ont encore besoin d'un document administratif
va pas tarder,
qui devrait pas tarder. Et donc ils partiront, ils peuvent accueillir entre 150 et 200 selon le bon, je pourrais pas donner les.
C'est ça.
Mais donc voilà, ils ont fait un travail similaire à celui de l'Aquarius et on les félicite et on leur souhaite beaucoup de courage.
Ben, merci Vincent, merci Marie.
Merci.
Et merci beaucoup pour cet échange. Espérons bien vous rencontrer prochainement dans des initiatives communes pour les droits et la dignité des migrants. Je vous invite, au nom de l'association RAGE, à venir assister à notre séminaire qu'on va organiser prochainement à l'occasion de la Journée internationale de la migration, donc qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Donc je vous invite à faire part de cette activité, à faire part à ce séminaire. On va justement échanger sur la question des subsahariens en Algérie et un peu partout dans le monde. Donc, chers auditeurs et auditrices de la web radio RAGE Voix de Jeunes, on est arrivé à la fin de cette émission Café des Libertés. Donc, c'était avec nous Marie et Vincent du collectif SA, tout près de la frontière franco-espagnole, donc qui travaillent pour l'accueil et l'accompagnement des migrants subsahariens qui sont de passage de la rive sud vers le nord. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, d'autres invités et d'autres sujets. Merci.
Merci. De la grande Babylon, me dicen el clandestino, por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تي سادي إذا ما تي بوز الصبح شوف داك السمر المول شي ناس ديال الكرافان ولا شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا